Il ne faut en aucun cas laisser les gouvernements écrire seuls l'histoire.
La Russie dans la mer Noire.
La Crimée et Sébastopol ont une importance civilisationnelle et même sacrée, inestimable pour la Russie. Comme le mont du Temple à Jérusalem pour les adeptes de l'islam et du judaïsme. Et c'est ainsi que nous les considérerons toujours.
La Crimée et Sébastopol, l'équivalent pour la Russie du mont du Temple dans le judaïsme ou l'islam. On devrait prêter davantage d'attention à cette représentation de la Crimée qu'a osé Vladimir Poutine, mais oui, c'était lui, traduit par Jacques Sigal, face à la Douma en décembre dernier. Et voici maintenant Poutine qui se présente en visionnaire, capable par l'étendue de son regard de relier le présent aux sacralités passées. En réalité, la première Russie, la Rousse de Kiev, dont Poutine réclamera sans doute un jour le monastère emblème, la Laure de Petchersk, et pareillement la Russie de Vladimir et de Moscou qui lui succéda, vécurent longtemps enclavés, sans accès ni sur les mers froides du Nord, ni sur les rivages plus ensoleillés de la mer Noire, qui auraient pu donner l'accès à la mer chaude, la Méditerranée. C'est seulement en 1696 que Pierre le Grand se ménage un premier passage jusqu'à Azov. Catherine II caresse ensuite un grand dessein impérial qui sera toujours contrebattu par la Grande-Bretagne ou la Turquie. Aujourd'hui, c'est avec la Turquie que la Russie entend continuer de partager son influence. Dans la théorie du choc des civilisations, codifiée à la fin du siècle dernier par Samuel Huntington et que tant de dirigeants du 21e s'obstinent à vouloir rendre réel, nulle part n'était prévue une Ukraine biculturelle et médiatrice avec l'Europe. Qu'elle puisse avoir une influence et même seulement exister, gêne ceux qui, à Moscou mais aussi à Ankara, ont construit un récit historique qui les arrange et qui fait de la mer Noire une chasse gardée.
La marche de l'histoire, France Inter, Jean Lebrun.
Avec Kevin Limonier, bonjour.
Bonjour.
Géographe, homme de terrain, vous êtes à l'Institut de géopolitique de Saint-Denis, de Paris 8, mais vous enseignez aussi à Moscou. Vous tenez d'ailleurs un blog étonnant qui s'appelle Poussière d'Empire, que je recommande. Vous racontez vos virées dans les villes innovatrices de Russie, parce qu'il y en a encore.
Oui, tout à fait, tout à fait. Et Poussière d'Empire renvoie véritablement à cette réalité de ces îlots de puissance, aujourd'hui, soit en décadence, soit en renouveau.
Alors, on va parler d'un espace flottant bien réel, la mer Noire, mais vous êtes capable de cartographier les tweets aussi, et le cyberespace russe.
Oui, tout à fait, oui, nous avons ce projet.
Je renvoie nos auditeurs à votre blog. Alors, l'espace flottant, oui, les flottants, la mer Noire, un très intéressant numéro de la revue Questions internationales, édité par la Documentation française, auquel vous avez participé. Alors, il faut qu'on dise bien clairement les choses. On ne va pas parler de la mer Noire, des migrations, de la mer Noire, des échanges commerciaux. On ne va pas parler du gazoduc qui aurait pu être posé au fond de la mer Noire. Non, on va parler géopolitique. Vous êtes à l'Institut de géopolitique à Paris 8. Géopolitique, si je comprends bien, j'entends Poutine parlait, c'est le grand récit idéologique qui fixe aux nations, en particulier, leur place dans l'histoire.
Alors, la géopolitique telle que nous la concevons dans l'école française de géopolitique, c'est tout le contraire. C'est un décortiquage de toutes ces mythologies et de toutes ces idéologies qui ont des soubassements, bien évidemment, très matériels, ambitions territoriales, économiques, déguisées dans des mythologies.
Alors, décortiquons, si vous le voulez bien. La Rousse de Kiev que j'évoquais, le premier état, l'état d'Alexandre Nevski, capitale Vladimir, et puis qui va ensuite faire le lien avec la Moscovie, c'était des états sans débouchés maritimes.
Oui, oui, absolument. C'était des États qui étaient enclavés. Il y a même un penseur russe du début du XXe siècle qui disait que la Russie est un organisme des grands fleuves qui s'est constitué en coulant d'une certaine manière le long des grands fleuves, mais qui vivait aussi des échanges nord-sud et notamment des échanges entre les Varegs, les Vikings, les premiers fondateurs de la Russie, et Constantinople.
Mais qu'est-ce qu'il y avait au sud, sur la mer Noire ? Il y avait des Tatars, vassaux des Ottomans ?
Les Tatars sont arrivés plus tard. On avait, notamment à l'époque de la Rus de Kiev, nous avions des comptoirs génois, notamment, qui permettaient...
Qui se souvient que Gênes avait de l'influence sur la mer Noire.
Exactement, que Gênes avait des territoires dans cette région du monde, et bien évidemment des comptoirs et même des villes byzantines, notamment Kherson, qui est située aujourd'hui dans la périphérie de Sébastopol.
Mais alors les Tatars qui vont former un khanat, ils arrivent quand ?
Ils arrivent un peu plus tard. Ce sont des peuplades nomades. Il faut savoir que cette zone est une zone qui est soumise à des flux et reflux de migration. Les Tatars vont arriver un peu plus tard, notamment, si j'ose dire, dans les valises des Ottomans, oui. D'une certaine manière.
Alors, faut-il les bouter dehors ? C'est une question que se serait posée déjà en 1696 Pierre le Grand, qui est celui qui commence à développer des ambitions vers les mers froides, elles ont beaucoup d'inconvénients, les mers froides, et puis vers la mer Noire qui débouche vers les mers chaudes. C'est une série américaine, hein, Marvin Chomsky a dit ce qu'elle veut bien dire.
J'entends bien bouter les Turcs hors de Russie afin que nous ayons une voie maritime vers le sud. Et si nous avons accès à la mer Noire, il nous faudra des bâtiments de haute mer avec des quilles profondes. Nous apprendrons à les construire nous-mêmes, comme nous l'avons fait pour nos bateaux de rivière. Ainsi, messieurs, nous avons là le Don et le Donet sur la rive droite. Nous sommes là, à leur confluent, et le but que nous visons est le fort d'Azov. Alors ce soir, sous le couvert de l'obscurité, nos barques équipées de canons pénétreront dans la mer d'Azov, et elles pilonneront le fort depuis cette position.
Majesté.
Colonel.
Ne seront-elles pas exposées à des tirs venant de ce même fort ?
Leurs tirs n'arriveront pas à destination.
En dépit de leur position.
Nos agents de renseignement nous ont assuré de la vétusté du matériel turc.
Conquête d'Azov, donc à l'est de la Crimée, fin du XVIIe siècle, déjà le thème de la vétusté turque. C'est quand même Catherine II qui a le premier grand dessein sur la mer Noire.
Absolument. Il faut savoir que Catherine II avait comme ambition, encore une fois, une ambition territoriale, qui était de profiter de l'affaiblissement turc sur son flanc sud pour ouvrir un nouveau couloir vers cette mer chaude qu'est la mer Noire. Et d'autre part, un projet mythologique, je dirais, idéologique, nous pourrions presque dire, de colonisation du sud russe. Et c'est d'ailleurs cette nouvelle Russie, qui est le sud de l'Ukraine actuelle, colonisée depuis, à partir de Catherine II, à laquelle se réfère aujourd'hui Vladimir Poutine et les séparatistes de l'Est ukrainien.
Importance du mot Nouvelle-Russie, que je vous laisse dire en russe.
Tout à fait, Novorossiya.
Oui, mais vous parlez de mythologie. Il y a toujours un projet à double partie chez Catherine II, comme chez Poutine aujourd'hui, mais il y a une partie vraiment mythologique, parce qu'il s'agit de récupérer Constantinople.
Tout à fait. C'est ce
perdu
que...
en 1453.
Effectivement.
C'est ce une date de l'histoire russe.
C'est une grande date de l'histoire russe. Hein. Vous savez qu'on appelle généralement Moscou la troisième Rome, en opposition, en complément de la première et de la deuxième Constantinople. Et que Catherine nourrit ce que l'on a appelé, ce que les historiens ont appelé le projet grec. C'est-à-dire de reprendre Istanbul dans... refaire une nouvelle Constantinople qui serait le siège d'un empire panorthodoxe, mythologie reprise plus tard par Dostoïevski sous le nom de Tsargrad. Tsargrad, c'était censé être la ville d'un souverain temporel mais également divin qui serait un peu à l'image de l'ancien Basileus byzantin, d'une certaine manière.
Donc c'est la Russie qui relèverait l'orthodoxie que le patriarche de Constantinople le tienne pour dit. La Russie va aspirer à une présence en Méditerranée au terme de ce projet via la mer Noire, ce que n'apprécie pas, dès le XVIIIe, encore moins au XIXe siècle, la Grande-Bretagne.
Absolument.
Qui va préférer s'allier à l'Empire ottoman pour empêcher la Russie de jouer toutes ses cartes. Je me souviens de ce que me disait mon professeur d'histoire, M. Frissard, dans le secondaire naguère, à propos de la guerre de Crimée qui va éclater en 1854. Napoléon III, empereur des Français, entre dans la combinaison de la reine Victoria. Tous deux font pression sur le divan. Et le Divan, c'est l'administration ottomane. Et ça va entraîner un conflit où tous les trois, d'ailleurs, vont être alliés. C'est bien ça ?
Monsieur
Frissard avait raison ?
Il a parfaitement raison, dans la mesure où la guerre de Crimée répond d'abord à des ambitions britanniques pour éviter que les Russes ne s'aventurent trop au sud des détroits et, d'une certaine manière, viennent interférer avec ce qui apparaît déjà comme la route des Indes, d'une certaine manière.
La charge de la brigade légère, ça se passe justement avec un régiment de lanciers qui vient des Indes. C'est le fameux film, vous savez, de 1936 avec Errol Flynn, où les personnages des chefs britanniques sont un petit peu caricaturés. Ils sont ici, à Sébastopol, en 1854.
Vous ne connaissez pas la Crimée, Jeffrey. On me dit que c'est un pays extrêmement malsain.
Il est tout de même étrange, mon général, que l'état-major envoie les lanciers du 27e à Sébastopol pour combattre les Russes.
Mais vous sous-estimez nos ressources, voyez-vous-même. Nous tenons Sébastopol assiégé et nos forces sont les Russes à leur merci. De plus, jusqu'à présent, aucune occasion réelle d'attaquer Sébastopol ne s'est présentée.
Vous n'êtes pas sans savoir que les Russes ont transporté leur plus puissante batterie au-dessus de la vallée. Il faudrait au moins 5 régiments pour leur donner l'assaut.
Votre Excellence, la cavalerie légère britannique avance vers nos positions.
Nous allons les freiner avant qu'ils ne traversent la vallée.
Bien sûr. Transmettez au commandant des batteries des positions 37 et 22 l'ordre d'ouvrir le feu dès qu'ils seront à leur portée.
Bien, Excellence.
Grâce à la guerre de Crimée qui nous a donné Réaumur, Sébastopol, la station Crimée, Malakoff, le pont de l'Alma, etc. Et qui n'a, au fond, bloqué la Russie qu'un moment, mais après le départ du tsar Nicolas Ier vers l'éternité, quand même la Russie va envisager d'autres options que l'extension par la mer Noire.
Absolument. Le siège de Sébastopol, malgré la défense acharnée des Russes, a été un traumatisme pour la Russie, pour les états-majors russes, qui se sont retrouvés en face d'armées occidentales extrêmement bien équipées, avec des équipements qui préfigurent déjà la guerre de 14, tranchées, télégraphes, fusils à canon rayé, etc., etc. Alors que les Russes, eux, avaient des tactiques qui étaient encore assez anciennes. Et il faut dire qu'après le siège de Sébastopol, il va y avoir un grand mouvement de balanciers stratégiques vers l'Orient, pour les Russes. On a notamment un penseur russe dit orientaliste qui écrit, après le siège de Sébastopol, « En Europe, nous étions des valets, en Asie, nous serons des seigneurs. » Le siège de Sébastopol et la défaite de Crimée marquent le début de cette grande phase de colonisation de l'Asie centrale, où la Russie se détourne pendant quelques décennies des affaires européennes.
Donc l'idée d'Eurasie.
Elle n'est pas encore appelée ainsi, mais disons que dans l'orientalisme tel qu'il se développe à l'époque en Russie, après le traumatisme de la guerre de Crimée, nous avons déjà l'ADN, si j'ose dire, de l'eurasisme tel qu'on le connaît aujourd'hui.
Oui, mais la Russie demeure un état pivot, avec quand même encore des ambitions vers la mer Noire.
Absolument, absolument, vers la mer Noire,
et
la
toutes
Baltique.
Et toutes les mers qui développent des puissances commerciales, civilisationnelles autour d'elles. Il n'y a pas que la Méditerranée.
Non, il n'y a pas que la Méditerranée, et notamment on peut se référer ici aux idées d'un grand géographe russe, Tchanchansky, qui avait établi la théorie selon laquelle il y avait trois grandes baies océaniques dans le monde et que le contrôle de deux de ces trois grandes baies pouvait assurer la domination mondiale à la puissance donc, qui les dominait. Ces trois grandes baies sont la Méditerranée, la mer de Chine et les Caraïbes. Il y a encore, bien évidemment, dans la deuxième moitié du 19e siècle, une ambition de la part des Russes de dominer et la mer de Chine et la Méditerranée, et d'ailleurs la mer de Chine aussi, a été source de conflits, notamment avec la guerre russo-japonaise bien plus tard, en 1905.
1914-1915, quand on se souvient de la bataille des Dardanelles, il y a un dernier surgeon au début du XXe siècle de l'idée mer Noire, Méditerranée, contrôle par la mer Noire des mers chaudes, et puis le bolchevisme l'emporte. Il y a une formule que vous me confiez des penseurs bolcheviques sur la mer, parce qu'on va renoncer
absolument,
après 1917 à une stratégie mer Noire. La formule c'est
la formule c'est la mer est un élément bourgeois.
Ah.
La mer est un élément aux mains et contrôlé par les puissances bourgeoises, par les thalassocraties britanniques puis américaines. C'est un élément bourgeois dans la mesure où, dans cette idéologie-là, la Russie bolchevique doit d'abord se consolider sur terre, avant, bien évidemment, de pouvoir investir la mer, ce qu'elle fera bien plus tard.
Alors, grosso modo, pour faire très simple, la Turquie va garder l'avantage, malgré ses positions pendant la guerre de 14, malgré sa neutralité incertaine, antenne pendant la guerre de 1940 et la convention de Montreux, 1936, qui lui donne le contrôle des détroits. Elle est encore valable aujourd'hui. Si vous voulez bien, on a entendu Bachelet tout à l'heure dans le journal de Claire Servageant. Je vous propose un moment de repos sur les plages de la mer Noire, parce qu'il y a aussi des plages sur la mer Noire. Ils sont arrivés quand les Russes sur la mer Noire dans les années 1860
Oui, 1700... vous voulez dire les Russes
Les villas, plages, les stations balnéaires.
On a bien évidemment des lieux de villégiature dès les années 1860, ensuite en Union soviétique.
Ici, nous sommes après la Deuxième Guerre mondiale. Je vous ai annoncé un grand chanteur, c'est Cocciante. Sur les plages de la mer Noire, il y a des amours de vacances qui se nouent, mais le rideau de fer est tombé. C'est du grand romantisme.
Chanson banale que tu chantais pourtant si mal reviennent aujourd'hui me faire mal. Parfum brûlé des jours d'été, vacances au bord de la mer Noire qui se termine en série noire, photos gravées dans ma mémoire, instantané d'éternité. Le monde était coupé en deux, chacun vivant de son côté. J'ai vu des larmes dans tes yeux au moment de se dire adieu. Nos lettres jamais arrivées, je suis revenu te chercher. Tant pis si le monde était fou, l'amour était plus fort que tout. Termine en série noire, image brouillée dans ma mémoire. J'aurais pas dû me retourner. Les faux semblants, les faux papiers, rideaux de fer à traverser. À feu ouvert, ils ont tiré, et je n'ai pas pu t'emmener.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Eh bien, on parle de la mer Noire avec Kevin Limonier. Alors, il y a un excellent numéro de questions internationales avec des cartes, une bibliographie, des documents. C'est pas mal ce qu'on ajoute là.
C'est très...
C'est une trouvaille de Jacques Sigal.
Ah, oui, oui.
Mais attention, il y a les plages, Varna, Constanza, ça doit être le point de vue d'où parle. Cocciante. Et puis, il y a les forteresses. Parce que pendant la... guerre froide, la Crimée notamment, devient un enjeu stratégique de première grandeur.
Absolument. Il faut savoir que la Crimée est au centre d'un dispositif impressionnant, on peut le dire, puisque si la mer était un élément bourgeois dans les années 20-30, après la Seconde Guerre mondiale, bien évidemment, les choses changent sensiblement. Désormais, l'Union soviétique a des alliés en Europe orientale, et la guerre avec les Occidentaux n'est pas loin. Et cette mer Noire peut être envisagée comme un coin enfoncé dans le bloc rouge qu'il s'agit de contrôler, puisque le contrôle des mers et notamment le contrôle des détroits est aux mains des Occidentaux.
La flotte, c'est une flotte de soutien pour les opérations terrestres, bien dans une autre pensée stratégique soviétique, c'est une flotte.
Alors il y a eu de gros débats, voilà, il y a eu de très très gros débats au sein de l'état-major de l'armée rouge pour savoir si la flotte ne serait que un objet de soutien tactique et logistique pour les armées rouges qui fonderaient vers l'ouest de l'Europe, ou bien véritablement une flotte à ambition mondiale, à l'image de la flotte américaine.
Sous la direction de l'amiral Carney, les flottes françaises, grecques, italiennes, turques, britanniques et américaines ont participé en Méditerranée à la manœuvre Longstay. 170 navires, 500 avions et de nombreuses unités de fusiliers marins ont pris part à cette opération dont le premier but était de donner le maximum d'entraînement tactique aux forces combinées des trois armes. Il s'agissait aussi d'entraîner les différents commandements des flottes de Méditerranée à manœuvrer sous une direction unique. L'opération Longstep a montré que le NATO disposait à présent d'une force aéronavale cohérente et prête à faire face à toute éventualité.
Au large de Sébastopol, sur la mer Noire, l'URSS célébrait la journée nationale de la marine. Et on a pu voir ainsi que le canon a pratiquement disparu des vaisseaux soviétiques pour laisser la place aux fusées. La plupart des unités sont exclusivement armées d'engins ultramodernes qui changent totalement la ligne habituelle des bateaux de guerre. Enfin, des exercices de tir réel ont conclu cette démonstration de force de la flotte soviétique de Méditerranée.
Nous sommes à la fin des années 1950, actualité Gaumont. Kevin Lémonnier, pourquoi au milieu des années 50, Khrouchtchev remet-il la Crimée à la République d'Ukraine fédérée dans l'URSS?
Alors c'est une histoire très complexe, dans la mesure où la Crimée est remise à la RSS d'Ukraine, notamment en raison de jeux de pouvoir internes au Parti communiste, et notamment en raison des jeux de pouvoir qui avaient prévalu à la mort de Staline, au soutien des communistes d'Ukraine et du politburo en fait, de la RSS d'Ukraine, à Khrouchtchev, contre les autres candidats qui avaient émergé après la mort de Staline. Khrouchtchev étant lui-même ukrainien.
Mais Khrouchtchev ne prévoyait pas, évidemment, ni l'effondrement du communisme, ni l'éclatement de l'URSS, ni l'apparition de cet acteur inattendu qu'était l'Ukraine dans le choc des civilisations de Huntington, fin du XXe siècle. L'idée qu'une Ukraine biculturelle, médiatrice entre l'Europe et l'ex-monde soviétique puisse apparaître, n'est même pas évoqué. Les habitants de Crimée participent au référendum qui décide de l'indépendance de l'Ukraine. C'est quand même assez compliqué après. Qu'est-ce qu'on fait du nucléaire?
Tout à fait.
Et des installations nucléaires? Il ne faut pas oublier que l'Ukraine les a cédés ou les a gommés?
Alors effectivement, l'Ukraine a volontairement gommé ses arsenaux nucléaires. Il faut savoir que la flotte rouge, la flotte de mer Noire, la flotte soviétique de mer Noire, disposait d'un arsenal nucléaire absolument impressionnant, dont il faut dire que beaucoup de bâtiments nucléaires, la plupart, si je me souviens bien, sont restés quand même sous contrôle russe.
Quant à la flotte russe, elle se retrouve au mouillage. Voici un reportage de Thalassa. Aux côtés, à moins qu'elle n'encercle la flotte ukrainienne, beaucoup plus petite. Ici, nous sommes dans les baies de Sébastopol.
Moi, je viens d'Ekaterinbourg, la capitale de l'Oural. J'ai été appelé pour servir dans la flotte de la mer Noire. Je suis fier d'être basé à Sébastopol, car cette ville est à la gloire de la Russie. Elle a vécu deux sièges importants, et c'est grâce au courage de ses marins russes qu'elle a gagné sa renommée à travers le monde.
Il y a eu des incidents sérieux.
Tout à fait, on est passé à deux doigts de la guerre. C'est-à-dire qu'on a eu des bateaux, notamment qui battaient pavillon ukrainien, qui ont commencé à se mutiner parce que les équipages étaient justement issus de toutes les minorités de l'ancien bloc soviétique. On l'a bien entendu dans le document qui vient d'être diffusé. Les marins de la flotte de Sébastopol viennent des quatre coins de l'Union soviétique. Et lorsqu'on vous demande en 91, lorsque vous êtes officier de marine et qu'on vous demande fin 91 de choisir de prêter allégeance soit à la flotte russe, soit à la flotte d'Ukraine, effectivement cela pose des problèmes, d'autant plus que les gens à l'époque, et les matelots notamment, n'avaient pas pleinement réalisé ce qu'impliquait en fait l'indépendance de l'Ukraine. On a des documents qui disent qu'à l'époque, pour la plupart des matelots, l'Ukraine indépendante, d'accord, certes, mais nous restons tous finalement dans une certaine communauté de destin. Les gens avaient grandi là-dedans, ils n'envisageaient pas autre chose, en tout cas les matelots de la flotte. Or, ça n'est pas comme ça que ça s'est passé, et on a eu des mutineries, on a eu du matériel qui a été piqué sur des bateaux russes par des Ukrainiens et vice-versa, etc. On était vraiment à deux doigts d'un conflit armé.
Juste un mot de l'attitude de la Turquie pendant toutes ces années vis-à-vis de l'Ukraine. La Turquie non plus n'attendait pas qu'arrive l'Ukraine indépendante dans le jeu. Elle a tendance à toujours continuer à négocier avec son partenaire habituel,
dans une attitude, comme souvent, incertaine.
Absolument, absolument. D'autant plus qu'il faut dire que la flotte ukrainienne s'est réduite bientôt comme peau de chagrin, et que pendant des années, la flotte russe de Sébastopol, qui est restée donc à Sébastopol, hein, le port de Sébastopol a été loué par l'État russe à l'Ukraine, cette flotte russe de mer Noire avait comme mission officielle d'assurer la protection mutuelle de la Russie et de l'Ukraine dans une représentation héritée justement de cette communauté impériale de destin telle qu'on la connaissait en Union soviétique. Moi j'ai discuté avec des gens à Sébastopol qui me disaient, c'était avant le rattachement, et quand je posais la question de savoir mais pourquoi vous acceptez une flotte étrangère ici, c'était provocateur, mais ils me disaient, cette flotte c'est notre flotte à tous. Il n'y avait pas véritablement de prise de conscience qu'une véritable frontière séparait l'Ukraine de la Russie. Et c'est d'ailleurs tout le drame d'aujourd'hui. La frontière est très floue et très sanglante.
L'indétermination, il a fallu que l'Ukraine du président sorti, Yanukovych, la rompe fin 2013, ou bien le partenariat eurasiatique, Kazakhstan, Biélorussie, qu'est-ce qu'on a à faire avec le Kazakhstan culturellement, ou bien l'accord d'association avec l'Union européenne. Bon, on ne va pas revenir sur la réintégration de la Crimée dans l'Ukraine, ni décrire par les menus les attaques séparatistes dans la nouvelle Russie, mais ce que vous dites, Kevin Limonier, c'est qu'il y a des gradations dans le discours de Poutine, selon les personnes peut-être à qui il s'adresse.
Exactement, suivant les personnes, suivant si ça s'adresse à l'étranger ou à l'intérieur, ou au public russe, on a un vocabulaire très différent. On a effectivement des gradations dans la mesure où nous avons bien évidemment les intérêts tactiques, et ce que j'appellerais moi les intérêts tactiques, c'est-à-dire le contrôle territorial, les ressources, etc. etc. Et tout ça est un peu enrobé de plusieurs couches de discours, comme un oignon en fait d'une certaine manière, enrobé de plusieurs couches de discours qui vont du discours politique, politicien, à la convocation d'une grande idée séculaire, voire millénaire.
Discours politicien, je suis venu aller au secours du président Yanukovych. Discours réaliste, pragmatique, faut assurer la sécurité.
Exactement.
De la Russie. Et alors le discours mythologique, celui qui existait, parce qu'il y avait plusieurs échelles aussi chez elle, expliquez-vous. Chez Catherine II.
Chez Catherine II, tout à fait. Il y avait plusieurs échelles, puisqu'il y avait l'intérêt stratégique, l'intérêt tactique et stratégique qui était le contrôle des détroits et donc assurer des débouchés commerciaux à une Russie qui ne s'industrialise pas encore, mais qui connaît un boom économique et donc il faut écouler cette marchandise sur le marché européen. Et il y a le projet entre guillemets civilisateur de la nouvelle Russie en créant de nouvelles villes qui ont des consonances grecques comme Sébastopol, la ville auguste, et il y a enfin le projet grec de prendre le contrôle des détroits afin d'y instaurer une nouvelle Constantinople panorthodoxe.
Oui, mais chez Poutine, c'est aussi la référence au tombeau du Christ à Jérusalem.
Oui.
Il emploie le mot,
et je crois qu'il l'emploie à dessein, dans la mesure où les influences idéologiques et culturelles du président russe actuel sont très, liées à l'eurasisme, à l'orientalisme.
Et à l'orthodoxie.
Et à, bien évidemment, à l'orthodoxie.
Merci à vous, Kevin Limonier. Merci le numéro de Questions internationales, documentation française, numéro 72, consacré à la mer Noire. Jacques Sigal à la réalisation, Bruno Poncelet à la technique, Ilinka Negulesco, la plus mer Noire de nous tous, pour la préparation.